France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. En ce début de semaine, de nouvelles restrictions entrent en vigueur en France contre le Covid-19. Dans chaque département en alerte renforcée au maximal, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits à partir de ce lundi, tout comme les groupes de plus de 10 personnes dans les parcs et les jardins. Côté bar, ils devront fermer à 22h dans 11 grandes villes, ce qui n'est pas le cas des restaurants, sauf à Aix et à Marseille. Fermeture totale avec vente à emporter possible comme en Guadeloupe. L'arrêté des Bouches-du-Rhône est déjà attaqué en justice par le président de région Renaud Muselier. Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire de Covid-19, le projet de loi finances pour 2021 sera présenté ce matin pour une adoption en Conseil des ministres dans la foulée. L'exécutif table sur une forte croissance en 2021, plus 8% du PIB. Et à situation exceptionnelle, projet exceptionnel, le déficit ne sera pas limité. Éducation, justice, défense, travail, écologie seront les ministères gagnants. Tout ce qui est action et logement sera perdant. Statu quo pour les fonctionnaires. Emmanuel Macron fustige la trahison de la classe politique libanaise au lendemain de l'échec pour former un gouvernement dans le pays. Le président français a notamment eu des mots très durs contre le Hezbollah. L'Arménie et l'Azerbaïdjan au bord de la guerre. Des combats dans la région séparatiste azerbaïdjanaise du Nagorno-Karabakh. On fait au moins 24 morts hier dans le Nagorno-Karabakh. Une escalade qui suscite l'inquiétude internationale. Vous le comprendrez, les enjeux qui se jouent sur ce terrain dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. Notons enfin ces informations du New York Times. Selon le quotidien américain, Donald Trump n'a payé que 750 $ d'impôts fédéraux en 2016, année de son élection à la Maison Blanche. Le président américain a balayé hier soir ces révélations. Des informations bidons, totalement inventées, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse organisée à la Maison Blanche.
Dernière nouvelle de la science sur France Culture, Nicolas Martin.
A-t-on vraiment réussi à éradiquer la polio en Afrique? Malgré des campagnes de vaccination intenses, la maladie résiste. C'était la découverte astrophysique de la rentrée. Les trous noirs intermédiaires, que sont-ils exactement? Nous évoquerons le synchrotron de Grenoble, le plus puissant au monde. Nous reviendrons sur cette fâcheuse tendance qu'a la physique à vouloir tout unifier. Et nous verrons comment les auteurs de science-fiction envisagent l'avenir de notre planète.
Jusqu'à preuve du contraire, la méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
François Mitterrand est élu président.
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80. Projet Orlov sur France Culture.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien. Projet Orlov, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, le feuilleton à 20h30 et sur franceculture.fr.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure du monde vivant avec Bruno David qui remonte le temps ce matin pour nous parler du sélacanthe.
Le billet de banque comorien de 1000 francs arborait en 2005 un poisson bleuté. Qu'est-ce que vient faire un poisson sur un billet de banque? Pour le comprendre, remontons le temps. Marjorie Courtenay-Latimère est une jeune naturaliste du musée d'histoire naturelle d'East London, ville portuaire d'Afrique du Sud. Le 22 décembre 1938, elle reçoit un appel téléphonique. Un poisson bizarre vient d'être pêché à l'embouchure de la rivière Chalumna. Miss Latimère connaît mieux les oiseaux que les poissons. Pourtant, elle flaire, outre son odeur, que ce poisson n'est pas normal. Elle note qu'il mesure 1m35, est très beau, bleuté avec des petites taches blanches, des écailles dures, quatre nageoires ressemblant à des pattes et une étrange queue comme celle d'un chiot. Du jamais vu. Elle ne parvient pas à identifier l'animal et demande l'aide d'un spécialiste, James Leonard Schmidt, à qui elle adresse un dessin. Schmidt est en vacances. Le poisson se décompose. Le 3 janvier 1939, Schmidt envoie un télégramme « Préserve le poisson !» car il a immédiatement perçu l'importance de la découverte. Il dit « Je n'aurais pas été plus étonné si j'avais vu un dinosaure marcher dans la rue. » En effet, la nageoire caudale de l'animal a trois lobes, caractéristique d'un groupe fossile, celui des sélacanthes, prospère il y a 350 millions d'années. On avait découvert un spécimen d'un groupe censé avoir disparu depuis 70 millions d'années. La presse s'enflamme pour ce fossile vivant. Schmidt est arrivé trop tard pour étudier l'animal. Dès lors, même s'il publie la découverte et nomme la nouvelle espèce Latimeria chalumnée en l'honneur de Miss Latimer, il n'aura qu'une seule obsession, remettre la main sur un autre spécimen. Il attendra 14 ans avant qu'un autre sélacanthe soit pêché en 1952 aux Comores, où les pêcheurs locaux le connaissent déjà et le nomment Gombessa. Ensuite, c'est l'avalanche. 200 spécimens seront envoyés partout dans le monde. Le Muséum national d'histoire naturelle le décrit dans une monographie en 3 volumes. C'est une sorte de faux poisson qui possède comme nous humérus et fémur, mais il est truffé de caractères spécifiques. Il possède un organe électrorécepteur dans le museau, une articulation sur le sommet du crâne, un poumon rempli de graisse et surtout cette fameuse queue à 3 lobes. Mais les prélèvements menacent l'espèce car l'animal est rare. On opte alors pour l'observer dans son milieu. Pas simple. En 1988, Raphaël Plante et Hans Frick photographient et filment pour la première fois des sélacanthes dans des grottes par 400 mètres de profondeur. Aujourd'hui, il existe à East London un quai Latimer avec une plaque qui indique « Fièrement nommé d'après Marjorie Courtenay Latimer qui préserva pour la science le sélacanthe ». En 1997, 2 Américains découvrent sur un marché d'Indonésie une seconde espèce, Latimeria medadoensis. Le même scénario se reproduit. Les pêcheurs locaux le connaissaient déjà et lui donnaient le nom de Raja Laut, roi de la mer. Miss Latimer s'éteindra à 97 ans en 2004, longe et vive comme le sélacanthe, ce faux poisson, mais roi de la mer.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine, dans les petits matins de France Culture, à la radio ou quand vous voulez en podcast. Et aujourd'hui, on va se laisser porter par les vagues, les belles vagues, et en compagnie de Joël de René, un des pionniers du surf français. Le roi de la glisse, comme on l'appelle, continue aujourd'hui, à l'âge de 84 ans, de monter sur les planches pour surfer sur les vagues de la côte basque. Mais c'est plus qu'un sport, le surf, nous rappelle Joël de René. C'est pas seulement le plaisir du sport extrême, mais c'est aussi toute une culture et une philosophie de la vie. Il l'explique dans « Petit éloge du surf » qui vient de paraître chez François Bourin. Joël de René est mon invité ce matin. Une interview à distance depuis Bayonne, puisqu'il est déjà installé dans les studios France Bleu Pays Basque.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Joël de René.
Bonjour.
Est-ce que c'est une bonne saison pour les surfeurs, le mois de septembre?
Oui, c'est très bon, sauf que depuis 3 jours, il n'y a rien, c'est un lac.
Et vous, la dernière fois que vous êtes sorti en mer, je sais pas si on dit ça.
Dimanche dernier.
Et c'était comment alors?
C'était pas mal, il y avait des petites vagues d'1m50, elles sont juste idéales pour moi.
Cette passion, vous la vivez depuis les années 50, ça fait une 60aine d'années.
Exactement, depuis 63 ans, je surfe toujours.
Comment ça a commencé, Joël?
Ça a commencé par chance avec un Américain qui était ici en séjour à Biarritz, qui tournait un film en Espagne. Mmh. Et comme il ne pouvait pas amener la planche en Espagne, il me l'a laissé ici. J'avais des vacances d'étudiant de 3 mois. Donc il m'a laissé sa planche, un Américain qui s'appelait Peter Viertel. Et donc cette planche, elle est toujours là d'ailleurs, au musée du surf à Biarritz. C'est la planche qui m'a servi à faire mes débuts. En 57.
Voilà, et c'est votre rêve américain ou le rêve hawaïen que vous réalisez? grâce à lui.
Les deux, le rêve hawaïen d'abord, évidemment ça a commencé à Hawaï, et le rêve américain parce que c'est là que ça a pris son essor avec tous les fabricants de planches de surf et le succès des compétitions.
Alors ce Peter Viertel, qui est, on peut le rappeler, hein, c'est un grand scénariste, il avait travaillé sur le film Le Soleil se lève aussi, réalisé par Henry King. Quand il venait en France, il venait pour travailler bien sûr, mais il revenait aussi pour surfer.
Absolument, il était toujours à l'hôtel du Palais, il était avec Deborah Kerr, son épouse, mais il venait complètement, était complètement fanat de surf, et il venait à la Côte des Basques avec sa planche, c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Les amis qui m'ont dit, il y a un type qui se tient debout sur une planche à la Côte des Basques, il faut absolument que tu ailles parler avec lui.
Parce que vous, avant de vous tenir debout sur une planche, vous aimiez vous laisser porter par les vagues, mais vous n'aviez jamais vu des surfeurs.
Exactement, j'en faisais à plat ventre avec ce qu'on appelait les planquis. C'était des petites planches en contreplaqué, recourbées au bout. On faisait tout ça à plat ventre depuis très longtemps, depuis là j'ai 10-12 ans. Et puis j'avais vu un film qui s'appelait Hawaï, île de rêve, par un Basque, Jacques Chigaray. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai découvert des gens surfer à tous les âges. À Hawaï, je me dis, avec le ski que j'ai fait, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Et c'est ainsi que s'est constituée la première bande de surfeurs français.
Oui, on a créé des clubs. On a eu la chance d'avoir un Péruvien très riche, Pierre Carlos Doni, un banquier passionné de surf, qui est venu à Biarritz. Il nous a incité à créer le club Waikiki. Il avait créé d'ailleurs au Pérou le Waikiki Surf Club. Il nous a dit qu'il faut créer un club à Biarritz pour réunir un peu toutes les passions et obtenir de l'argent de la ville, des subventions. C'est comme ça que ça va débuter.
Et très vite, vous avez commencé à gagner de l'argent en faisant prof de surf. On vous voit d'ailleurs dans ce livre donner un cours de surf à une certaine Catherine Deneuve, qui était à l'époque très très jeune, puisque la photo date de 1963.
Oui, elle était très jeune, mais j'étais prof de surf et gratuit, moi.
Ah oui?
Je ne me faisais pas payer pour donner des leçons de surf. Je n'étais pas professeur de surf. J'enseignais le surf à tous mes amis. Et j'ai eu le plaisir d'enseigner le surf à cette magnifique Catherine Deneuve, à l'époque.
Vous n'avez jamais gagné votre vie en surfant?
Jamais, 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 jamais.
Vous avez fait des compétitions, vous avez fait le tour du monde, vous êtes allé jusqu'à Hawaï.
J'ai fait le tour du monde, j'ai fait les championnats du monde, mais j'ai jamais gagné de l'argent avec le surf.
Alors comment vous faisiez pour gagner de l'argent tout en consacrant presque tout votre temps à cette passion?
Ma vie est une vie de scientifique, j'étais consultant, manager de la science, et je gagnais mon argent comme consultant, comme conseiller, et en gérant des grandes entreprises sportives. Et des grandes entreprises scientifiques. Donc j'avais une autre vie que le surf, évidemment.
Alors pour vous, le surf, c'est d'abord une philosophie de la vie. C'est venu très vite, hein, vous l'expliquez très bien dans Petit éloge du surf, Joël de René. Vous dites que c'est en surfant les vagues les unes après les autres depuis des décennies que j'ai compris à quel point le surf est une bonne image de la vie.
Oui, le surf, c'est une culture de la fluidité. La vie, c'est une vague. Et de plus en plus, nos sociétés deviennent de moins en moins pyramidales, coordonnées du haut vers le bas. De plus en plus, on voit apparaître un pouvoir transversal, un pouvoir en réseau. C'est la société fluide qui est en train de commencer à primer les rapports de flux plutôt que seulement les rapports de force. Et le surf anticipe tout ça.
Vous citez même Gilles Deleuze.
Oui, Gilles Deleuze, il parle du surf dans ses écrits. Il est cité
glisse,
par Gibus
ouais.
de Soultré, qu'il a rencontré d'ailleurs. Et il cite le surf, bien sûr.
Expliquez-nous comment, avec le surf, vous pouvez avoir une attitude zen vis-à-vis des choses de la vie.
Le surf, c'est à la fois l'adaptation, l'anticipation et la résilience. Donc, adaptation, anticipation, résilience, ce sont des caractéristiques essentielles pour la vie, pour vivre bien la vie, pour le management. Il faut s'adapter, il faut anticiper ce qui peut arriver. Il faut être résilient si les problèmes arrivent pour pouvoir les surmonter.
Et vous ne parlez pas d'aventure, de montée d'adrénaline, de cette envie de se mettre en péril à la poursuite de la plus belle vague. C'est étrange, Joël de René.
Ça existe. Moi, j'ai toujours aimé les sports extrêmes. J'ai participé au ski extrême. J'ai fait des compétitions de ski pendant longtemps. J'ai fait aussi des descentes dans des couloirs neigeux assez risqués, avec des risques d'avalanche. Donc j'aime bien les sports extrêmes, le surf et le ski en sont. Et donc il y a toujours le risque, l'adrénaline et les endorphines. Les deux marchent ensemble, l'adrénaline pour la crainte, les endorphines pour le plaisir.
Et ça continue pour vous?
Oui, Toujours, bien sûr, ça continue. Bon, évidemment, je suis beaucoup plus prudent et beaucoup plus tranquille maintenant. Je me résigne à des vagues beaucoup moins grandes et j'y vais moins souvent. Il y a une question d'âge, à 80 ans passés, il faut faire quand même un peu attention.
C'est quoi dompter la vague ?
Dompter, on nous avait appelé pendant assez longtemps les chevaliers de la houle, les gens qui étaient capables de dompter les vagues. Mais pour nous, on dompte pas les vagues, on est complémentaire avec la vague. La vague, c'est un plaisir qui est fabriqué par une tempête dans l'Atlantique Nord, qui vient déferler sur nos plages. Et en fait, on dompte pas la vague, on est complémentaire de la vague. On utilise sa force et le plaisir qu'elle nous donne en complémentarité. Il n'y a pas de domination.
Être surfeur, Joël de René, c'est aussi choisir une façon de s'habiller, une façon de s'alimenter, une façon bien particulière de vivre sa vie.
Oui, absolument, ça fait partie de ce qu'on appelle les sports de glisse. Maintenant, ce mot est devenu de plus en plus courant. Les sports de glisse comme le snowboard, la parapente, le surf, le windsurf, tout ces, le foil maintenant, tous ces sports de glisse ont un très commun, qui est le fait de bénéficier des éléments de la nature, de se laisser glisser. C'est la fluidité de la glisse que j'applique à la fluidité de la vie. Et j'essaie de voir comment le surf peut nous aider à anticiper, à s'adapter à la fluidité du vivant.
Le surf s'accompagne aussi de toute une culture littéraire, cinématographique, musicale. Je dois vous avouer, Joël de René, que j'ai essayé d'écouter un peu la musique dite qui accompagne les surfeurs ou qui accompagnait les surfeurs américains. Oui. Écoutez ce genre de musique aujourd'hui, ça fait très très bizarre. Mais vous-même, est-ce que vous avez adopté toutes les composantes du surfeur quand vous étiez jeune, Joël de René?
À l'époque où j'ai adopté la musique du surf riding, la musique, l'équipement, les t-shirts, les casquettes, les sneakers, enfin tout l'équipement qui va avec, il y a une culture de la glisse, on s'habillait tous pareil, en se reconnaissant avec nos casquettes, on se faisait des signes, il y a un signe des surfeurs qui est la main avec le pouce et l'index tendu, qu'on voit d'ailleurs Obama qui a fait le jour de son inauguration, il a fait le geste des surfeurs, il vient de Hawaï. Donc, ils connaissaient ce geste aussi. Donc, on le fait, on se reconnaît entre nous avec ce geste des surfeurs.
Que vous continuez à faire, Joël de René?
Oui, on le fait dès qu'on rencontre des surfeurs nouveaux. Le pouce à droite, l'index à gauche et la paume de la main vers vous, vers la personne qu'on accueille. You are my sunshine, yeah.
On l'appelait The King of the Surf Guitar, Dick Dale, qui figure en bonne place dans votre petit éloge du surf, Joël de René.
Oui, cette musique a bercé notre culture des années 70. On l'a jouée constamment, on l'a jouée tout le temps, ça faisait partie.
Quand vous dites on, c'est les surfeurs.
Sur les plages, on emmenait les stéréos sur la plage, écouter cette musique.
Est-ce qu'il y a des valeurs que les surfeurs mettent en avant?
Oui, bien sûr, on partage une même culture avec les gens de la glisse. C'est-à-dire l'adaptation, l'anticipation, la résilience, l'adaptation aux conditions. Évidemment, quand on va surfer, on n'est jamais sûr que les conditions vont être les bonnes. Le vent peut tourner, la condition peut changer, il faut s'adapter. La résilience, c'est quand c'est difficile, quand on est sous la vague, quand on est obligé de tenir sa respiration, quand les vagues sont trop grosses. Adaptation, résilience, et puis aussi le plaisir du danger. Je pense que les deux hormones de l'endorphine et de l'adrénaline sont liées. L'adrénaline du danger, l'endorphine du plaisir. Donc on essaye de susciter ça et le fabriquer chaque fois qu'on va surfer.
Qu'est-ce que vous remarquez dans l'évolution du surf, puisque vous avez commencé parmi les premiers Français à pratiquer le surf, Joël de René, dans les années 50. Qu'est-ce qui a évolué dans ce sport, dans cette passion?
Ce qui a le plus évolué, ce sont les combis. Les combis de néoprène qui nous permettent de surfer l'hiver.
Les combinaisons.
Quand il fait très mauvais.
Ouais.
Les combinaisons. Quand il fait très mauvais, quand il fait froid, on a donc la possibilité de surfer beaucoup plus maintenant. Deuxièmement, il y a le leash, qui est le fil à la patte, avec du velcro autour de la cheville, et la planche est attachée, c'est-à-dire si on tombe, on garde sa planche avec soi, on ne la perd pas. Avant, on était obligé de nager des heures pour retrouver sa planche au bord, quelquefois dans des conditions dangereuses. Maintenant, avec le leash, on a la planche attachée. Donc la combinaison de surf, le leash, ont tout changé. Moi, j'ajouterais maintenant le casque. Je surfe avec un casque spécial, GATT, un casque australien, qui permet de se protéger des coups de sa propre planche quand on est roulé par la vague, et de la planche des autres aussi.
Joël de René, c'est quoi un spot pour un surfeur?
Un spot, c'est un endroit où la vague va se former toujours au même endroit, qu'on peut repérer en prenant des repères sur la côte, qu'on connaît, soit parce qu'il y a un rocher en dessous, soit parce qu'il y a un banc de sable. Et donc, on se retrouve au spot, quelquefois, malheureusement, on est nombreux dans un spot qui fait 20 mètres, 20, 30 mètres de large. Donc, on est souvent nombreux. Il y a des priorités, il y a des règles pour respecter les autres surfeurs. Sinon, on appelle ça taxer la vague. On engueule les gens qui taxent nos vagues. Donc, il y a des règles de priorité. Donc, le spot, c'est l'endroit où la vague se forme et où on se retrouve tous pour démarrer au même endroit.
Alors, s'il fallait parler des endroits où il faut aller surfer, vous, Joël de René, vous avez sillonné le monde avec ces fameux guides, puisque vous parlez de ces guides que les surfeurs échangent entre eux pour trouver toujours un endroit à découvrir et où on peut aller surfer.
Il y a d'ailleurs un Français qui s'appelle Anthony Colas qui publie un livre respecté de tous les surfeurs dans le monde qui s'appelle le Storm Rider Surfing Guide, le guide des surfeurs de tempête. Et c'est tous les endroits du monde, quel genre de vague, quel type de combi il faut mettre, est-ce qu'il y a des requins, quelle est la température de l'eau. C'est un peu notre bible à tous. C'est un Français qui l'a fait.
Et vous-même, Joël de René, quels sont les meilleurs endroits où vous aimez aller pour surfer?
Alors ici, évidemment, en France, c'est la Côte des Basses, c'est surtout Guétari. La Fitenia, que j'aime beaucoup, c'est des spots de rochers qui se forment toujours dans des conditions très régulières. Mais j'ai surfé à Hawaï, j'ai surfé à l'île Maurice, à Tamarin. Donc j'ai surfé en plusieurs endroits, en Australie également. Donc je suis très content des chances qu'on a d'avoir d'excellents spots en Europe, en France, dans la Côte Basque et dans les Landes. Let's go surfing now, everybody's learning
how. Come on a safari with me. France Culture, le réveil culturel, Tufik Hakem.
Et enfin, pour terminer, avoir l'esprit du surf, qu'est-ce que cela peut vouloir dire, Joël de René?
L'esprit du surf, c'est savoir s'adapter aux conditions pour en bénéficier au maximum. L'esprit surf, c'est savoir partager les vagues avec les autres. On dit que le surf est un sport solitaire, mais en fait, c'est un peu un sport d'équipe. Quand on a les copains qui vous attendent au bon spot et qu'on a pris une belle vague et qu'on remonte les retrouver, et il y en a qui vous font le pouce en l'air en disant « bravo, t'as pris une belle vague ». Donc c'est pas un sport d'individuel, c'est aussi une forme de sport d'équipe, parce qu'on s'observe tout le temps les uns les autres, on se félicite les uns les autres et on partage beaucoup.
Et autour de vous, je suppose que vous remarquez que le surf est devenu de plus en plus populaire.
Oui, absolument, parce que c'est devenu un mot à la mode. On surfe sur les sondages, les politiciens surfent en politique, c'est un mot qui est maintenant, on surfe sur l'actualité, on surfe, c'est devenu une espèce de mot à la mode qui veut dire un peu glisser sur les choses, pas simplement se focaliser, se concentrer, analyser, mais être plus fluide, plus souple. Donc c'est un mot qui est devenu en partie dans le vocabulaire commun, et bien tant mieux, je suis content que ça corresponde à la fois à la réalité et au mythe du surf.
Et la première vague, vous vous en souvenez, Joël de René?
Bien sûr. C'est inoubliable, c'est une première vague que j'ai prise à la Côte des Basques avec Peter Viertel quand il m'a prêté sa planche. Et je me suis senti glisser. Bon, j'avais déjà l'expérience de la glisse avec le ski, mais tout d'un coup j'ai senti que cette planche, la manipulée de l'arrière, je pouvais tourner avec. Je glissais, j'avais le même sentiment de glisse qu'en ski, avec cette fois-ci ce sentiment que c'est pas comme une pente. La vague, c'est une pente permanente qui continue de se former pendant qu'on est dessus. C'est formidable, ouais. C'est une impression inoubliable.
On pense à quoi quand on surfe ?
On pense à remercier la nature, remercier l'écosystème qui nous envoie des vagues aussi fabuleuses dans un endroit.
Oh, ça c'est après coup, mais pendant qu'on surfe, Joël Doronné.
Alors pendant qu'on surfe, on passe à quoi ? D'abord à pas tomber, on passe à bien manœuvrer sa planche. C'est très important la position qu'on a sur sa planche. On surfe avec des longboards ou des planches courtes. Donc on a sur des planches courtes, on a les deux pieds, un pied sur le milieu de la planche, l'autre pied au milieu de ce qui reste à l'arrière. On manipule la planche avec les hanches, avec les genoux. Avec la longboard, la longue planche qui fait 3 mètres, on a un pied au-dessus des dérives et l'autre pied au milieu de ce qui reste. Et on manipule sa planche en appuyant sur l'arrière pour l'alléger à l'avant et pour pouvoir tourner. Donc, ce sont deux techniques très différentes. Moi, je pratique les deux, la shortboard et la longboard, selon les conditions et selon la taille des vagues.
Et vous les gardez, vos planches, précieusement, Joël Doronné?
Je vais vous dire, j'en ai une dizaine et je choisis la bonne planche pour les bonnes conditions. Il faut s'adapter. Quand les vagues sont courtes et très creuses, je prends une planche courte. Quand les vagues sont longues et faciles à démarrer, qu'il y a beaucoup de monde, je prends une longue planche pour démarrer plus facilement.
Joël Doronné, on peut retrouver quelques-unes de vos photos. Une photo que vous avez prise récemment, il y a quelques jours. Une autre photo en 1965 à Biarritz. Une photo, bien sûr, avec une certaine Catherine Deneuve en 1963. Et dans votre livre, Petit éloge du surf, il y a un dernier chapitre très émouvant parce que vous rendez hommage à votre frère qui lui-même était un amateur des sports d'extrême, même si pour lui c'était plutôt les traversées de Détroit.
Oui, mais c'était un visionnaire du sport, un visionnaire de la glisse. Il a été un des tout premiers à introduire le windsurf en France. Et ensuite, il s'est passionné pour les Détroits, pour la traversée. Il s'est consacré surtout à ça, médiatiquement et sportivement. Mais au début, c'est lui qui a vraiment introduit pas le kitesurf, mais le windsurf en France.
Merci beaucoup, Joël Doronné. Je rappelle que votre Petit éloge du surf sort aux éditions François Bourin.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Merci à nos amis de France Bleu, Pays Basque. Merci à Julien Douminc pour la prise de son, à Vincent Abouchard qui était à la réalisation, comme d'habitude, et à Corinne Amard qui m'aide depuis le début à la coordination pour cette émission Le Réveil Culturel. On se retrouve demain à la même heure.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture. Xavier Mauduit.
L'histoire de la Russie secrète. De Raspoutine le mystique à la contre-culture sous le marteau, nous allons explorer les caves du Kremlin, car il y a un fil à tirer des services secrets du tsar au KGB et évidemment à la Russie de Poutine. C'est le culte du mystère, le culte du secret.
La Russie secrète, dans le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. Sur France Culture, le magazine de la nature et de l'environnement, Aurélie Luneau.
La biodiversité est en mal de vie. Dans ce monde en pleine mutation, des scientifiques se penchent sur le berceau du vivant et sur le devenir des hommes. Alerte biodiversité, comment devons-nous habiter le monde ? Réponse avec l'astrophysicien Hubert Reeves et avec la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Hélène Soubelet.
De cause à effet, dossier spécial biodiversité dans le cadre de la coalition hashtag Sauvez le présent, France Culture Le Parisien, Ouzbek Erika, ce mardi à 21h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un dernier verre avant la fermeture. Parisiens, Bordelais ou Marseillais ont profité hier d'une dernière soirée avant les restrictions sanitaires. À partir d'aujourd'hui, les bars vont fermer à Aix et à Marseille. Fermeture tous les soirs à partir de 22h dans les grandes métropoles. La peur et la colère dominent chez les restaurateurs, vous l'entendrez. Un budget sans limite pour 2021 après la crise sanitaire. Il doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans ce journal, vous entendrez les attentes des associations. Et puis à suivre, le Caucase du Sud au bord de la guerre, les combats ont repris ce week-end entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les mesures annoncées pour ce week-end dans la métropole d'Aix-Marseille ont été un petit peu atténuées. Appliquées à partir d'aujourd'hui, finalement, elles vont concerner les bars et les restaurants. La fermeture totale reste en vigueur dans les deux villes, Aix-Marseille, mais elle sera partielle dans toutes les communes autour de la métropole. Fermeture là à partir de 22h, finalement, comme dans 11 autres métropoles du pays. À Paris, par exemple, les bars vont bien fermer à partir de 22h. À partir de ce soir et pendant 15 jours, Annabelle Grelier a rencontré à ce propos un restaurateur du 18e arrondissement.
Bonjour. Furieux vendredi, il aura fallu à Gaëtan, patron de bar-restaurant, le week-end et un peu d'explication pour mieux comprendre ces nouvelles restrictions. Alors est-ce que maintenant c'est plus clair ?
Maintenant oui. On a reçu l'arrêt préfectoral qui explique bien que c'est les licences 4 qui peuvent ouvrir. Donc c'est avec la nourriture. Donc on a pas le droit de vendre d'alcool sans nourriture sur table.
Et de comprendre surtout que la fermeture à 22h ne le concernerait pas.
Les brasseries déjà c'est des licences 4, tout ce qui est restaurant propre c'est des licences 4. Donc oui, c'est que les bistrots, les cafés qui ne font pas à manger le soir par exemple, qui n'ont pas de cuisine le soir, eux ils pourront pas. Mais nous enfin, on n'a pas de fermeture obligatoire. Pour moi au contraire on va mettre en avant notre carte du soir, ça peut être que bien.
Et pour les autres, pas besoin d'être un génie pour contourner les mesures.
C'est très facile si vous avez un gérant qui est un peu intelligent, qui a un peu d'expérience, il aura juste à mettre une petite assiette de charcuterie, une petite assiette de jambon. Et puis ça passera comme ça.
Les établissements sans licence 4 ne pourront toutefois pas y couper, ce qui du côté de la clientèle ne passe pas si bien que ça.
On les soutient, on se dit qu'on a envie qu'ils y vivent, qu'ils travaillent. Moi j'ai envie de me battre pour qu'on soit ensemble et qu'on préserve notre façon de vivre.
Mais c'est tellement insensé, ça n'a tellement pas de cohérence. On se retrouve dans un monde où on est à 15 000 dans un métro et on n'a pas le droit de se retrouver le soir dans un resto. Ça, c'est pas possible. Ça paraît injuste. À un moment donné, j'en ai marre qu'on me parle des morts. J'en ai marre qu'on me parle de préserver ma santé. Être conscient qu'on traverse une épreuve, mais je préfère la traverser dans la joie et dans l'amour que la traverser dans la peur et dans l'oppression. Voilà.
Du côté de la préfecture, on fait savoir que les contrôles vont s'intensifier. Les établissements ne respectant pas ces nouvelles mesures feront systématiquement l'objet de procédures administratives.
C'était un reportage d'Annabelle Grelier pour France Culture. Pour ce qui est maintenant du budget pour faire face à toutes ces mesures exceptionnelles, le projet de loi de finances pour 2021 est présenté ce matin. Un budget de relance dont le principal volet sera le plan à 100 milliards d'euros sur 2 ans. Sauf que tout le monde ne sera pas gagnant. Les associations, par exemple, attendent toujours des coups de pouce concrets. La semaine dernière, le gouvernement leur a promis 100 millions d'euros d'ici 2022, mais 85% de cette enveloppe sera des prêts. Ce qui ne correspond pas à tout le monde, explique Frédéric Freunder, délégué général du mouvement associatif.
On nous a rassurés, mais ce qu'on nous dit ne nous rassure pas forcément. On tient à nous rassurer, mais les mesures à ce stade annoncées sont bien davantage sous la forme de prêts. Ces prêts peuvent être tout à fait intéressants pour un certain nombre d'associations et certaines en ont besoin pour renforcer leurs fonds propres, pouvoir faire des investissements nécessaires pour passer le cap de la crise. Pour d'autres associations, le besoin est simplement d'une aide directe assez immédiate pour réussir à surmonter une difficulté conjoncturelle, encore une fois, qui n'est pas une difficulté structurelle de modèle, mais simplement pouvoir faire face à la suppression d'un certain nombre d'activités ou de moments de collecte, en fait. Au printemps, par exemple, beaucoup d'associations organisent des kermesses, des rencontres, etc., qui leur permettent d'avoir des ressources propres. Ces temps n'ont pas eu lieu, n'ont pas eu lieu au printemps, n'ont pas eu lieu à la rentrée. Il faut pouvoir y pallier, et pour ça, ça passe plus par une aide directe que par une forme de prêt. Le tissu associatif a quand même été, ces dernières années, impacté par plusieurs mesures. Hein. Alors, la plus emblématique d'entre elles, sans doute, c'est l'arrêt des contrats aidés. Aujourd'hui, faire à nouveau face à des difficultés sans soutien, c'est très difficile. Là, à ce stade, les mesures complémentaires que nous demandons, si on arrivait déjà à obtenir une centaine de millions, ça permettrait de répondre à un certain nombre de demandes. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucune annonce en ce sens-là.
Annonce du gouvernement attendue de toute façon ce matin pour la présentation du budget 2021. La dépense publique est la nouvelle doctrine de l'exécutif. Nous y reviendrons dans moins d'une demi-heure dans le journal de 7h. 70 nouveaux élus vont siéger au Sénat pour les 6 prochaines années après les élections d'hier. Un Sénat toujours dominé par la droite qui est d'ailleurs renforcé. Seule nouveauté pour la Chambre haute, la création d'un groupe vert, une réussite écologiste qui aura coûté quelques sièges au Parti socialiste. Statu quo aussi après les législatives dans 6 circonscriptions ce week-end. La République En Marche n'était pas parvenue à se hisser au second tour. Droite et gauche se partagent les sièges de députés. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent de nouveau au Karabakh. Il s'agit d'une enclave azerbaïdjanaise peuplée d'Arméniens, un territoire qui a fait sécession au début des années 90, entraînant une guerre qui a fait quelque 30 000 morts. Les dernières nouvelles, ces dernières 24 heures en provenance de cette région, sont inquiétantes. Il y a eu au moins 24 morts hier, Marie-Pierre Véraud.
Bombardements et tirs d'artillerie, lois martiales et mobilisation générale. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont de nouveau sur le pied de guerre au Nagorno-Karabakh. Au début de l'été déjà, des heurts avaient éclaté à la frontière entre les deux anciennes républiques soviétiques, devenues d'irréductibles ennemis. Mais l'intensité des combats qui ont débuté ce dimanche à l'aube au Nagorno-Karabakh entre les forces azerbaïdjanaises et la région séparatiste soutenue par l'Arménie fait ressurgir le spectre de embrasement du Caucase du Sud. Chacune des parties accuse l'autre d'avoir initié les violences. Chacune revendique aussi avoir infligé de lourdes pertes au camp ennemi à grand renfort de rhétorique nationaliste. Plus d'une vingtaine de victimes, militaires et civiles. Difficile de donner un bilan fiable. Seule certitude, la crainte de voir les parrains régionaux entrer dans la danse, la Turquie d'Erdogan qui se dit prête à aller soutenir l'Azerbaïdjan et la Russie de Poutine qui certes appelle au calme, mais est liée par un pacte de défense avec l'Arménie et livre des armes aux deux parties.
Et justement, quel lien exact ont la Turquie et la Russie sur ce territoire? Nabila Hamel a posé la question pour France Culture à Jean-François Pérouse, enseignant-chercheur, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul.
Ce qui est sûr, c'est que la relation de la Turquie à l'Azerbaïdjan est une relation qui est marquée à la fois par la dépendance énergétique turque. La Turquie a besoin du gaz azerbaïdjanais, a besoin aussi que l'Azerbaïdjan passe par son territoire pour exporter ses hydrocarbures. L'Azerbaïdjan possède la plus grosse raffinerie sur le territoire turc. Et il y a une forme de dépendance économique, hein, mais l'Azerbaïdjan dépend de la Turquie pour, disons, sa stratégie militaire, pour son équipement militaire. Donc voilà, on a une relation entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui s'est intensifiée ces derniers temps. Et une Turquie qui conseille l'armée azerbaïdjanaise, qui équipe l'armée azerbaïdjanaise. Et donc là, le jeu, hein, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en Syrie. Hein. Le jeu russe hein, est très ambivalent de ce fait, puisqu'il y a la relation avec la Turquie qui doit être ménagée, mais aussi celle avec l'Arménie. Et donc ni la Russie, ni finalement la Turquie n'ont hein, intérêt à ce que ça dégénère. Ce qu'on peut regretter, c'est évidemment c'est sur place, hein, c'est les peuples azerbaïdjanais et arméniens qui payent le prix hein, de ce grand jeu hein, régional et international. Donc on peut imaginer encore des dérapages, mais en fait il y en a depuis plus d'un an hein, à nouveau, mais pas un grand dérapage, sachant que les grands joueurs hein, qui influent sur ce théâtre d'opération savent que les choses ne doivent pas dégénérer totalement.
Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a appelé hier soir à une cessation des hostilités dans la région. Emmanuel Macron qui a honte pour les dirigeants libanais. Il a dénoncé hier l'incapacité de la classe politique libanaise à former un gouvernement. Camille Magnard y reviendra plus longuement avec son analyse dans la revue de presse internationale à 7h35. D'ici là, zoom sur une autre région du globe qui intéressera aujourd'hui le président français. Il est attendu cet après-midi à Vilnius, capitale lituanienne, pour le début d'une tournée dans les pays baltes. Et il sera question du voisin russe. Emmanuel Macron veut jouer l'arbitre, Louise Baudet.
parler à Vladimir Poutine, entamer un dialogue stratégique avec lui à l'été 2019. Emmanuel Macron consacre ce virage diplomatique en recevant le président russe à Brégançon. Un an plus tard, le fameux dialogue a viré au dialogue de sourds, de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny à la répression des manifestations en Biélorussie. Les crises se multiplient et les voisins immédiats de la Russie craignent pour leur souveraineté. Pays baltes en tête, qui ont subi la domination russe avant la Première Guerre mondiale, puis la domination soviétique après la Seconde Guerre. Ils attendent d'Emmanuel Macron des gages de solidarité, plus de fermeté vis-à-vis de Moscou et un geste fort en direction du peuple biélorusse qui réclame la démission du président pro-russe Alexandre Loukachenko, mouvement ardemment soutenu ici en Lituanie. Il est clair que Loukachenko doit partir, a déclaré le président français juste avant son arrivée, un soutien qui doit encore se traduire en actes, dit-on ici. C'est à Vilnius que la chef de file de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya s'est exilée. Le président français n'exclut pas de la rencontrer.
Louise Baudet pour France Culture. Les averses seront toujours nombreuses aujourd'hui en France métropolitaine et un temps très frais, comptez 8 à 15 degrés du nord au sud ce matin. 6h40, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France, le milieu scolaire et universitaire est devenu la première collectivité de circulation du virus devant les entreprises.
Et oui, 32% des 899 clusters en cours d'investigation concernent le milieu scolaire et universitaire, précise Mattea Battaglia et Camille Stromboni dans lemonde.fr, avec 285 clusters. Le monde éducatif passe pour la première fois devant celui de l'entreprise qui en compte 195. Il s'agit, il faut le préciser, des clusters en cours d'investigation et s'ils sont en constante augmentation dans les établissements scolaires et universitaires, lorsque l'on prend en compte l'ensemble des clusters identifiés, y compris ceux maîtrisés ou clôturés, les entreprises restent le premier type de collectivité touchée. Jusqu'à présent, Santé publique France ne distingue pas la part des clusters dans les universités et ceux des écoles, collèges ou lycée, mais il semble que les premiers soient à la fois plus nombreux et plus contaminants. Reste que dans les écoles, de nombreuses voix s'élèvent pour questionner l'assouplissement du protocole sanitaire et dénoncer un deux poids deux mesures entre le durcissement des consignes dans les bars ou les rassemblements et leur allègement dans l'enceinte scolaire. Un collectif de sociologues et spécialistes de l'éducation a mené l'enquête au cours du confinement, puis du déconfinement, de la maternelle à l'université. L'ensemble, coordonné par Stéphane Bonnery et Étienne Doit, est publié à la Dispute sous le titre « L'éducation au temps du coronavirus ». Il souligne l'aggravation des inégalités dans ce contexte et l'accroissement de ce que Bourdieu et Passeron désignaient déjà dans les années 1960 comme la logique d'indifférence aux différences. Ce qu'a supposé, je cite, « la vision enchantée du dispositif « Ma classe à la maison », c'est que toutes les familles, indépendamment de leurs conditions, de leur logement, de leur charge de travail, de l'étendue de la fratrie, pouvaient, dès ce lundi 17 mars, être au rendez-vous. Fabienne Montasson-Michel décrit l'intensification du travail des enseignants, mais aussi l'investissement de familles très engagées dans l'accompagnement scolaire et éducatif de leurs enfants, là où ils ne les attendaient pas. Des familles populaires, éloignées de l'école ou très discrètes, des familles d'enfants en grande difficulté ou handicapées. D'autant plus que, souligne-t-elle, il y a bien eu plus de discontinuité que de continuité pédagogique pendant le confinement, ne serait-ce que du fait des problèmes d'équipement de part et d'autre, enseignants et familles. Et elle déplore que dans la précipitation et l'improvisation du déconfinement, l'institution n'ait donné aucun horizon pour que cette expérience soit l'objet d'une réflexion collective sur ces questions afin de repenser le métier pour une école qui ferait mieux ce qu'elle a à faire pour tous. Au contraire, le déconfinement a été organisé dans le déni du travail réalisé. Les équipes sommées dans l'urgence de présenter des scénarios dans le cadre d'un protocole sanitaire élaboré par un bureau d'études n'ayant aucune compétence éducative, le bureau Veritas. La Covid-19 n'a pas créé la crise des savoirs au service du pouvoir, mais elle a créé un effet de loupe qui en accélère les conséquences. Le coefficient de défiance généralisée est encore plus élevé, observe Nicolas Roussellier dans la revue Études. L'historien et politiste examine les conséquences de la crise sanitaire sur le fonctionnement et l'image de l'État, qui en sort à la fois renforcé dans ses prérogatives régaliennes et affaibli par des défaillances stratégiques, comme l'affaire des stocks de masques, la question des mesures sanitaires à l'école ou celle des tests. Ce qui est à souligner, en l'occurrence, c'est la crise de l'expertise au sens technocratique et scientifique. Le fait, je cite, d'avoir collé au savoir des médecins a autant servi que desservi le pouvoir politique. Nicolas Roucellier rappelle la tendance historique de l'État moderne dans son extension et sa conquête de nouveaux domaines d'intervention à s'appuyer sur des organes spécialisés, si possible ancrés dans les sciences, comme les économistes et les statisticiens dans la lutte contre les crises économiques, les géographes et les démographes dans les politiques natalistes, les sociologues et les pédagogues dans les réformes de l'enseignement. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette crise qui est tout à la fois sanitaire, sociale et économique, seuls les médecins semblent avoir leur mot à dire. Or, ils ne sont pas tous d'accord et c'est une des caractéristiques de la science d'avancer dans la controverse et les échanges. S'en remettre à leur avis ne dispense pas d'une vision stratégique. Pardon, gouverner, c'est prévoir, disait Mendès France. On connaît les dégâts de l'administration à flux tendu, inspiré par le New Public Management, notamment en matière de santé et d'éducation. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon. Bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous, à toutes.
Aujourd'hui, le nouveau pacte des migrations européens vu d'un État qui a longtemps fait figure de modèle, la Suède.
Oui, d'après le pacte présenté la semaine dernière par la présidente de la Commission européenne, chaque pays membre devra participer à la politique migratoire de l'Europe, soit en accueillant à nouveau des demandeurs d'asile, soit en traitant leurs requêtes, soit en organisant leur retour. Alors que va faire la Suède, pays qui s'était montré le plus généreux lors de la crise migratoire de 2015, en recevant 163 000 demandeurs d'asile dans un pays qui ne compte que 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on estime que 19% de la population suédoise est née à l'étranger, dont par ailleurs un grand nombre de Finlandais. Le consensus politique qui a longtemps prévalu, selon lequel accueillir ceux qui en ont besoin est une obligation morale, a depuis volé en éclats. Bonjour Fanny Christou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplômée de Sciences Po et docteur en géographie, chercheuse à membre associé de Migrinter à l'université de Poitiers et chercheuse à l'université de Lund en Suède. Vous êtes avec nous depuis Malmö, dans le sud de la Suède, qui est justement la porte d'entrée des demandeurs d'asile. Par où passe-t-il, par où passe-t-elle en général ?
Les routes migratoires des migrants, des réfugiés qui arrivent en Suède varient et forcément. Déjà, il faut comprendre les causes et comment ils arrivent en Suède. Il y a une première trajectoire, c'est notamment via les études supérieures, où on a de nombreux réfugiés qui ont réussi à être invités par des universités suédoises et qui arrivent donc à rentrer en Suède. Et puis il y a les voies illégales, donc des clandestins qui arrivent en prenant ces trajectoires que l'on connaît, la Turquie, la Grèce, les Balkans, puis l'Allemagne. Et l'Allemagne a souvent été considérée comme un pays de transit, puisqu'après les migrants trouvent refuge au Danemark et en Suède. Jusqu'en 2016, les frontières étaient ouvertes entre ces deux pays, entre le Danemark et la Suède. Donc ils arrivaient par Copenhague et passaient le pont de l'Øresund qui rejoint la ville de Copenhague et de Malmö pour ensuite arriver dans cette ville du sud de la Suède.
Voilà, route qui a été donc coupée en quelque sorte en 2016, on va y revenir. Mais vous, quand vous êtes arrivée, Fanny Christou, en Suède, c'était une année particulière eu égard à l'objet de vos recherches puisque vous êtes arrivée en 2015, année qui voit jusqu'à 10 000 personnes par semaine arriver en Suède pour y demander l'asile, selon les chiffres en tout cas de la presse suédoise. D'après un grand travail de collègues de témoignages qui a commencé il y a quelques mois, un programme qui s'appelle Je suis 2015, est-ce qu'on en sait plus sur, est-ce qu'on sait si beaucoup de réfugiés à l'époque avaient réellement choisi la Suède? Pourquoi est-ce qu'ils allaient jusque-là?
Alors, la Suède n'est pas toujours un choix délibéré, mais étant donné qu'il y avait cette politique de regroupement familial jusqu'en 2016, les personnes qui essayaient de trouver refuge en Suède venaient justement à cause de liens familiaux, de réseaux qu'ils avaient déjà dans le pays. Et puis pour toutes les raisons que l'on connaît sur la Suède, à savoir un modèle économique, un modèle social, avec des politiques généreuses. Et donc c'était dans cette optique-là que la plupart des migrants sont arrivés en Suède.
Est-ce que par ailleurs, puisqu'on sait qu'une des difficultés d'une politique européenne de l'accueil, c'est qu'il n'y a pas de liste commune des pays d'origine considérés comme n'étant pas sûrs, est-ce que sur ce plan-là, la Suède est particulièrement ouverte? Est-ce que beaucoup de nationalités se voient accorder l'asile en Suède?
Ça a été le cas, encore une fois, jusqu'en 2016, où la Suède a accueilli de nombreux réfugiés en octroyant des permis de résidence temporaires. Et puis en 2016, il y a eu ce changement dans la politique migratoire, au début temporaire, avec une fermeture des frontières entre le Danemark et la Suède temporaire, une politique du regroupement familial limitée. Et puis, alors qu'auparavant, les gens pouvaient demander l'asile très rapidement, il faut maintenant attendre des délais de plus de 4 ans, voire jusqu'à 8 ans, pour faire une demande d'asile en Suède.
Les Suédois se rappellent, en novembre 2015, la vice-première ministre annonçait les larmes aux yeux, le durcissement de la politique d'asile. On renvoie des mineurs étrangers chez eux. On revoit aussi des personnes très âgées, notamment celle qui est considérée comme la doyenne des migrants, une dame afghane.
Oui. Oui, il y a eu beaucoup de politiques de retour dans le pays d'origine. Des renvois massifs, notamment, comme je le disais, depuis 2016 et surtout 2018, avec notamment le contexte des élections législatives qui a eu lieu à l'époque. Voilà. Donc un durcissement vraiment de la politique migratoire qui finalement reflète un peu la politique européenne.
Cette dame afghane, elle avait 106 ans, c'est pour ça que je me permets de la mentionner. Fanny Christou, l'extrême droite aux législatives de 2018, donc 3 ans après la crise migratoire, elle dépasse les 17,5% de voix en Suède quand elle en rassemblait à peine 13 aux législatives de 2014. Quelle place la question migratoire a alors occupé dans son programme, dans les débats politiques?
La question migratoire était centrale et je pense que le débat politique lors des législatives de 2018 s'est vraiment construit autour de cette politique migratoire. Et ça a été justement une manière un peu déguisée d'accepter en quelque sorte les concessions, de faire des concessions et de prendre en compte les voix de l'extrême droite pour essayer de sauver le parti majoritaire des sociodémocrates qui est encore à l'heure actuelle au gouvernement. Donc oui, la question migratoire était au centre de tous les débats politiques.
Alors sur quels arguments en l'occurrence? Qu'est-ce qui fait dire que l'opinion publique a basculé? Le cas échéant, pourquoi? Est-ce qu'on peut parler d'échec aujourd'hui des politiques d'intégration en Suède?
Alors, l'opinion politique a basculé, oui et non. Je pense qu'encore une fois, étant donné que la Suède avait un système assez généreux, universaliste, un modèle d'État-providence, et le fait qu'il y ait eu cette crise migratoire, ça a donné des voix à l'extrême droite qui a pu gagner justement une part de l'opinion publique. Après, de là à dire qu'il y a eu un échec des politiques d'intégration, oui et non. Je pense que surtout la Suède n'était pas peut-être prête, d'un point de vue social, d'un point de vue économique et politique, à accueillir ces migrants-là, malheureusement. Donc oui.
C'est-à-dire qu'on a estimé à peu près que l'accueil des réfugiés coûtait à la Suède 4,5 milliards d'euros, un peu plus soit 1% de son PIB, c'est l'équivalent de ce qu'elle consacre à l'aide au développement, dit ceux qui rappellent que ce n'est pas non plus des sommes faramineuses, mais qui a porté à un moment la contradiction? Est-ce que par exemple ce sont localement les collectivités locales par exemple qui ont dû accueillir des migrants, qui ont dit qu'elles n'avaient plus les moyens ou voilà, sur quels arguments se sont concentrés les critiques?
Les critiques se sont concentrées surtout sur le fait, je pense que comme c'est un peu le cas dans de nombreux pays, que les migrants, qu'il n'y avait pas assez de travail pour la population déjà locale. Donc,
alors que le taux de chômage est assez bas d'ailleurs.
Du travail.
Le taux de chômage est assez bas en Suède.
Il y a beaucoup d'ambiguïté et il se justifiait derrière ça et aussi, comme on l'entend ailleurs, le fait que les politiques sociales ne sont pas prêtes, que les migrants vont avoir recours à ces aides sociales et ça va fragiliser le pays. Donc ils se sont réfugiés derrière ces idées-là, évidemment toutes faites, et alors que les chiffres, comme vous le mentionnez, révèlent tout à fait le contraire. Donc,
7% à peu près, hein, le taux de chômage en Suède, c'est ça à peu près, Fanny Christou. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, par exemple, qu'en Suède, les anciens migrants, ceux qui ont obtenu l'asile, sont aujourd'hui conducteurs de bus et autres emplois. Je ne sais pas si leurs revenus sont sur exactement la même base que les travailleurs suédois. En tout cas, les autres perçoivent également des indemnités journalières. Par ailleurs, pourquoi, Fanny Christou, la Suède s'est-elle, entre guillemets, montrée généreuse? Est-ce que c'était par intérêt économique? À un moment, elle a eu besoin de cette main-d'œuvre, ou est-ce que c'était par pure humanité, comme en Allemagne, où l'on dit c'est le poids de l'Église, le poids de la société civile, ce sont des valeurs morales qui nous ont conduits à ouvrir nos portes? Église luthérienne, en l'occurrence.
La Suède a toujours... Oui, a toujours été un pays historiquement d'accueil pour de nombreux réfugiés. On peut remonter dans les années 60, 70, 80, 90, où il y a eu de nombreux migrants qui sont arrivés de différents pays, notamment le Chili, la Yougoslavie, mais aussi la Grèce, l'Italie, parce qu'il y avait une main-d'œuvre dont le pays avait besoin. Et puis récemment, donc en 2015, quand ces migrants sont arrivés, notamment majoritairement de Syrie, c'était une main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs, des médecins, et il y avait un besoin de recrutement. Après, malheureusement, la Suède a un petit peu tourné sa veste et a suivi, en quelque sorte, le modèle européen des migrations qu'on connaît aujourd'hui, avec une restriction des frontières, etc.
Et aujourd'hui, pour conclure, Fanny Christou, comment la Suède se positionne face à l'appel de l'Allemagne et de la Commission européenne à faire preuve une nouvelle fois de solidarité? Est-ce qu'elle a déjà dit si elle était plutôt prête à accueillir de nouveaux migrants, à aider à verser une aide financière au pays, à verser une aide financière pour se montrer solidaire d'une autre façon?
La Suède, jusqu'à présent, est restée assez silencieuse par rapport à ce débat sur le pacte migratoire. Alors, est-ce que c'est en raison du contexte sanitaire où la place de la question migratoire est un peu laissée de côté, ou c'est peut-être un peu trop récent pour avoir assez de recul et juger ce que la Suède compte vraiment faire? Et puis, en parallèle, cette montée de l'extrême droite qui rend difficile peut-être le débat sur la question migratoire ici.
C'est vrai que le Premier ministre social-démocrate Stéphane Löfven trouve que la Suède a suffisamment pris sa part, mais les sociaux-démocrates gouvernent notamment en Suède avec les Verts, qui eux ne sont pas d'accord. Merci beaucoup Fanny Christou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'université de Lund en Suède et vous étiez en direct avec nous depuis Malmö. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Œil de biche, chevelure de jais, robe noire et mains papillonnant comme des sémaphores, Juliette Gréco incarne la chanson française qui a la poésie dans la peau.
Déshabillez-moi.
Gréco, reine de la nuit, a tiré sa révérence et nous l'écoutons en 2001 ronronner comme une tigresse au micro d'Hélène Azéra. Je suis faite comme ça, Gréco, à voix nue, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Je suis faite comme ça.
Dernière nouvelle de la science sur France Culture, Nicolas Martin.
A-t-on vraiment réussi à éradiquer la polio en Afrique? Malgré des campagnes de vaccination intenses, la maladie résiste. C'était la découverte astrophysique de la rentrée. Les trous noirs intermédiaires, que sont-ils exactement? Nous évoquerons le synchrotron de Grenoble, le plus puissant au monde. Nous reviendrons sur cette fâcheuse tendance qu'a la physique à vouloir tout unifier. Et nous verrons comment les auteurs de science-fiction envisagent l'avenir de notre planète.
Jusqu'à preuve du contraire, la méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, la question est: quand va-t-on être confiné?
Bah oui, vous savez, les Français le souhaitent, si l'on en croit un sondage du JDD d'hier. 72% des Français seraient prêts à respecter un reconfinement. Et puis surtout, les propositions abondent. On a eu droit ce week-end à la proposition de deux prix Nobel d'économie, Abhijit Banerjee et Esther Duflo. Ils proposent donc de confiner les Français du 1er au 20 décembre. C'est très pratique parce que le 21, vous pourrez aller chercher votre bûche, Julie. Alors Noël est sauvé, bon pour Hanouka, pour les Juifs, j'imagine qu'il y aura d'autres solutions, j'imagine aussi pour le Ramadan, l'Aïd. Bref, les prix Nobel vont nous proposer d'autres méthodes de confinement. Pendant Halloween au moins, on saura pourquoi on a peur, mais le Nobel de la meilleure proposition de confinement, hein, parce que je vois pas pourquoi on ne donnerait pas un Nobel dans ce domaine, parti comme nous sommes. Je le donne sans hésitation à trois biologistes israéliens qui ont mis au point une méthode absolument infaillible de reconfinement. J'espère l'avoir adoptée dans l'Hexagone. Je n'ai évidemment aucune idée de l'efficacité d'une telle méthode, mais au moins on va bien s'amuser.
Alors c'est quoi ?
Elle est exposée dans le New York Times. Je vous explique, Julien. En tout cas, je vais essayer. Alors il faut diviser les Français en deux. Alors ça, bon bah c'est déjà fait. Alors vous faites deux équipes, hein. Équipe A, équipe B, équipe Charlie, pas Charlie, Porsche versus Ferrari, ou bien encore plus compliqué, Thermomix versus Cookeo. Bref, vous avez vos deux équipes. Jusque-là, c'est simple, vous suivez. Après, ça se complique. Vous travaillez pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours, Julie, vous prenez des nouvelles des collègues, vous allez à la machine à café, bref, vous vous contaminez. Et puis pendant 10 jours, puisque vous êtes devenue positive au coronavirus, vous vous confinez. Bref, l'idée, c'est de casser la semaine de 5 plus 2 jours pour la transformer en semaine de 10 plus 4 jours. Sauf qu'il y a donc 10 dimanches, c'est un peu plus compliqué, 4 lundis, comme on dit. Comme disait l'autre, si je suis clair, c'est que je me suis mal expliqué. Il est clair que c'est très compliqué. Mais la victoire contre le virus, nous disent ces trois biologistes, est à ce prix. Avec une méthode comme celle-là, il est possible que l'on vienne à bout du coronavirus. En revanche, pour la migraine, c'est beaucoup moins sûr.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et justement, entre calendrier de confinement, de déconfinement, de reconfinement, que faire de notre incertitude face au calendrier, face au temps? Nous serons en compagnie d'un historien qui a beaucoup réfléchi au temps, François Hartog, et il sera rejoint par un philosophe, Frédéric Worms. En attendant, en parlant de temps, il est 7h, et bon réveil à tous.